Radio Starbucks.
Morning Edition from NPR News.
In the house.
Lo que se reproduce aquí en la radio.
France Inter. Le 18-20.
L'autre pilier de la méthode, c'est qu'on dialogue avec les voix. On essaie de les apprivoiser. Par exemple, on leur demande gentiment de revenir plus tard.
Quelle est curieuse, quelle est intrigante cette histoire que nous fera partager Florence Labruyère dans Un jour dans le monde. Les entendeurs de voix, ce sont des schizophrènes d'un centre de soins unique en Hongrie. Apprivoiser ces voix intérieures pour les chasser, vous verrez que vous serez scotchés comme nous. C'est l'escale reportage ce matin sous les radars et Amélie Perrier avec un parti belge, un parti politique que beaucoup voudraient voir interdire et vous allez vite comprendre pourquoi. Le pardon aussi des Britanniques aux habitants d'une toute petite île. 18h50, on salue l'arrivée de Julia Foyce dans Un jour dans le monde. Un homme sur deux est une femme dans le monde. Et Julia nous le rappellera chaque semaine. Ce soir, il est question d'un ministre qui démissionne pour laisser travailler sa femme et des poches de nos pantalons, nous les filles. 18h55, Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four, la Cour suprême des États-Unis. Ce qui s'y joue est peut-être plus important que les élections à mi-mandat sur lesquelles nous regardons beaucoup. Mais d'abord, c'est au Venezuela que nous allons, dans les pays qui l'entourent surtout. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Pès. Un jour dans le monde.
C'est donc l'exode la plus importante d'Amérique latine, probablement de ces 50 dernières années. Un phénomène migratoire qu'on regarde de loin, nous, parce qu'on se dit qu'on en a un aussi, de phénomène migratoire à gérer. Mais enfin, en chiffres et en valeur absolue, tout cela n'est pas loin d'avoisiner ce qui se passe en ce moment autour des Syriens qui fuient la guerre, en tout cas en nombre. 2 millions de personnes, pour arrondir à l'inférieur, ont quitté le Venezuela officiellement. Le vrai chiffre, il friserait même peut-être les 4 millions, peut-être un peu moins, voire un peu plus. Tout cela pour frapper chez les voisins, Colombie, Pérou, Brésil, Argentine, Chili, Costa Rica, même Mexique pour certains, Panama, Paraguay. Et vous allez voir qu'on va peut-être bientôt d'ailleurs parler des États-Unis. Bonsoir Olivier Dabenne.
Bonsoir.
Professeur à Sciences Po, vous êtes président de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes. Vous êtes aussi conseiller autour de cette région pour le Quai d'Orsay. Je le disais, une crise migratoire sans précédent. Le Venezuela, c'est un pays de 30 millions d'habitants, donc ça fait énormément de monde. Pour des raisons politiques parfois, pour des raisons économiques, il y a des choses qu'il faut rappeler. On a faim au Venezuela, c'est aussi pour ça que les gens s'en vont, en partie
oui, ça,
en tout cas.
Ça paraît absolument incompréhensible, étant donné que ce pays possède les plus grandes réserves de pétrole prouvées au monde, et que c'est un pays potentiellement très riche, et qu'il a été. C'est un pays qui a eu une classe moyenne, qui avait beaucoup de pouvoir d'achat, qui pouvait épargner en dollars, et qui s'effondre depuis quelques années. Et une crise qui effectivement atteint des proportions. Le Fonds monétaire international évoque 1 million% d'inflation en 2018. Évidemment, à ce niveau-là, les chiffres ne veulent plus dire grand-chose. Mais pour les populations, si, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que la vie quotidienne est devenue impossible. D'où la fuite vers l'étranger et ces centaines de milliers de gens qui sont sur les routes.
Alors on va revenir aussi aux raisons d'ailleurs pour lesquelles le Venezuela en est là. Il y a le pétrole, il y a aussi d'autres raisons. Cette fuite en avant, en fait, les pays voisins l'absorbent ou est-ce qu'on dit l'absorbait en fait parce que, semble-t-il, le flux est devenu trop important pour certains des voisins?
Oui, je crois que il faut être raisonnable et ne pas non plus accorder trop d'importance à quelques mouvements de protestations, de xénophobie qu'on a vu ici ou là, parce que dans l'ensemble, ces gens sont bien accueillis, dans l'ensemble, les gouvernements ont fait des efforts, mais effectivement, on arrive à un moment où les flux deviennent trop importants pour des pays qui sont souvent pauvres ou petits, je pense à l'Équateur en particulier, et qui n'ont pas les capacités pour absorber de tels mouvements de population et qui veulent faire en sorte que ces gens soient le mieux traités possible, et c'est pas facile du tout.
Disons qu'il y a un besoin d'organisation maintenant, ça veut dire qu'il y a des demandes de passeport dans des endroits où il n'y avait pas de demande de passeport. Quand les gens quittent le Venezuela, on ne part pas forcément avec son passeport si on n'en a pas, parce qu'on part dans une forme d'urgence.
Oui, et puis de toute façon, il est devenu impossible d'obtenir un passeport au Venezuela. Voilà. Enfin, la crise est à ce point grave que le pays ne peut plus imprimer même des passeports. Donc on peut les acheter au noir. Ça coûte très cher, 1 000, 1 500, 2 000 dollars. Sinon, évidemment, quand on exige un passeport, ça veut tout simplement dire qu'on refoule les migrants.
Alors, Olivier Dabenne, je voudrais vous emmener justement, nous emmener tous sur ces routes de l'exode. C'est en Colombie qu'on va aller parce que c'est l'un des plus gros contingents. On dit quel chiffre, autour de 500 000 personnes peut-être qui ont passé cette frontière colombienne. On y est avec Benjamin Ely pour Un jour dans le monde qui a rencontré des familles, celles qui sont déjà arrivées et celles qui sont encore sur la route.
Tout quitter, partir en famille avec sa femme et ses deux enfants, c'était il y a 2 ans une migration rapide pour Alejandro, 42 ans, en prenant l'avion. Une migration dans les règles, un visa, un travail. Alejandro a créé une entreprise, il gère la communication de plusieurs sociétés colombiennes sur les réseaux sociaux.
Nous avons planifié notre départ. Nous avons vendu tout ce qu'on possédait au Venezuela. Nous sommes renseignés pour savoir comment obtenir un statut légal. Ces derniers temps, la migration au Venezuela s'est accélérée et les gens essayent avant tout de quitter le pays avant même de savoir ce qu'ils vont faire. Je pense que c'est une erreur. Mais ces gens qui traversent le pays en marchant, qui n'ont pas d'argent, qui ne savent pas où ils vont dormir, au moins ils sont sûrs de ne pas perdre la vie. Au Venezuela, vous pouvez mourir en sortant dans la rue à cause de la délinquance.
Se jeter sur les routes, souvent sans passeport, les migrants vénézuéliens sont de plus en plus nombreux à faire ce choix risqué. Les plus pauvres, les plus fragiles, les classes populaires forment cette dernière vague
horrible
qui s'échoue à Bucaramanga, à 195 km de la frontière vénézuélienne, une ville étape dans le périple des migrants. Ils se retrouvent au Palqué de l'Agua, ils dorment sur le trottoir, pas d'hygiène, pas assez de nourriture. Ils sont épuisés après avoir marché dans la montagne.
Casi tres días de camino.
Pendant presque 3 jours, dit Maria, 47 ans.
Nous
sommes venus à pied en portant ce bébé que vous voyez.
Au Venezuela,
la situation est critique, explique Maria. Notre président ne sert à rien. Il prend l'argent, il vole le pays.
Et
le peuple meurt de faim, meurt par manque de soins. Le président Maduro dit que cette migration, c'est une invention. J'ai marché, je sais que c'est vrai. Il n'a aucune morale pour dire que tout n'est que montage, mensonge. La colère envers le gouvernement, l'espoir d'une vie meilleure, moteur de l'exode des Vénézuéliens. Comme Maria, ils avancent, ils marchent. Avec cette crise migratoire, le Venezuela a déjà perdu plus de 7% de sa population.
Olivier Dabani, il y a une chose, en écoutant le reportage de Benjamin Ely, qu'on remercie sur les routes de Colombie, c'est l'un de ces intervenants qui dit ça. D'ailleurs, les premiers à partir ont été les gens qui ont pris les devants, ça a été les gens diplômés, ça a été les gens éduqués, qui ont d'ailleurs réussi, c'est le cas de l'un de ces personnages, à trouver du travail sur place parce que tout ça a pu être préparé. Aujourd'hui, cette préparation, visiblement, n'existe plus. On est devenu dans une espèce d'urgence, en fait, qui visiblement n'existait pas il y a encore quelques mois.
Oui, absolument. Il y a un changement sociologique. Une des raisons pour lesquelles les Vénézuéliens étaient bien accueillis au départ, c'est justement parce qu'il s'agissait d'une main-d'œuvre qualifiée. Aujourd'hui, tout le monde part. Aujourd'hui, la catastrophe s'amplifie chaque jour, chaque semaine. Et donc, évidemment, quand on commence à voir des voisins, des amis, des parents qui partent, on suit l'exemple. Et aujourd'hui, tout le monde n'a qu'une envie, c'est effectivement de quitter le pays.
Alors, je vous repose la question de l'absorption des pays voisins. Est-ce que la crainte, ça peut être aussi... On voit un peu ce qui se passe en ce moment au Brésil. Il y a des choses dont il faut se méfier. Est-ce que ça peut être aussi un boulevard, une sorte de populisme qui est proche de celui qu'on peut connaître, nous, en Europe? Est-ce que des réactions de ce genre sont à craindre ou pas du tout?
Moi, je ne pense pas. Je pense qu'on en est, en tout cas, très loin. Enfin, faut jamais écarter cette possibilité, bien sûr, mais l'Amérique latine a l'habitude de voir des gens changer de pays, voyager, etc. Il y a eu quelques incidents, effectivement, dans le nord du Brésil, dans un petit village. On parle de quelques centaines de Vénézuéliens qui ont été expulsés dans un village qui est très pauvre, dans un pays qui est gigantesque, il y a 200 millions d'habitants, donc c'est vraiment rien. À mon avis, on a beaucoup exagéré cette idée de xénophobie. Il y a des troubles, c'est un petit peu normal hein, quand il s'agit d'accueillir des populations dans des zones... dans des zones pauvres. La Colombie, c'est un cas spécial parce qu'en Colombie, il y a déjà 7 millions de déplacés internes sur un pays de 50 millions d'habitants. Donc, il y a des mouvements de population depuis très longtemps. Alors, cet afflux de Vénézuéliens, qui souvent d'ailleurs sont des Colombiens, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les années 70, c'était les Colombiens qui migraient massivement vers le Venezuela au meilleur moment de sa croissance économique. Ils reviennent actuellement. Donc, il y a une telle interdépendance, interpénétration entre ces sociétés. Bien sûr, il y a l'accent qui trahit souvent l'origine vénézuélienne des migrants, mais enfin, il y a quand même une grande fraternité. Je pense qu'il faut souligner que ces gens sont dans l'ensemble très très bien accueillis.
Le président Maduro, on l'a entendu, lui pense que cette vague d'immigration n'existe pas. Enfin, on la connaît, voilà, on la connaît, la rhétorique de Maduro. Chez lui, en attendant, on paye 2 millions de bolivars pour un café, grosso modo, en ce moment. Jusqu'à quand peut-il tenir réellement? On sait qu'il a été réélu dans les conditions que l'on sait, par ailleurs, au mois de mai. Jusqu'à quand ça tient, cette histoire Maduro?
Ça fait un moment qu'on se pose la question. La réponse, personne là, évidemment, personne ne dispose d'une boule de cristal. Mais quand même, on sait que ce n'est pas possible. Ça ne peut pas continuer comme ça. L'issue à laquelle tout le monde pense est une issue militaire, paradoxalement. C'est-à-dire des militaires qui, à un moment donné, veulent stopper l'effondrement total de ce pays.
Parce que jusqu'à présent, il tient sur quoi, en fait, Maduro en fait. Il tient toujours sur l'armée pour l'instant.
Il tient sur un noyau dur. Il y a quand même un noyau dur de militants qui sont persuadés que le pays est victime d'une guerre économique, d'une agression extérieure conduite par les États-Unis. Il y a un groupe de probablement 4, 5 millions de Vénézuéliens. Ce n'est pas rien. Il en a fait d'ailleurs des milices armées. C'est aussi un argument pour terroriser les gens qui seraient tentés par la manifestation de rue. Mais il y a aussi l'armée qui contrôle les secteurs économiques les plus importants. Et en gros, vous avez beaucoup de corruption. Et donc, les officiers de l'armée qui, jusqu'à présent, sont complices de l'effondrement du pays.
Mais est-ce que l'armée pourrait se retourner contre lui? Est-ce qu'il y a des signes qui disent que l'armée flanche plus ou moins ou pas?
Il y a des signes. Il y a probablement des divisions. Il y a des gens qui sont emprisonnés, des militaires qui sont emprisonnés, des militaires à qui on interdit de porter des cartouches. C'était le cas lors du fameux tentative d'attentat avec un drone où on a vu ces militaires qui couraient dans tous les sens et qui étaient paniqués.
Ils n'ont pas été d'une efficacité redoutable.
Oui, non, c'est sans doute parce que leurs fusils n'étaient pas armés et qu'ils ne pouvaient pas se défendre. On leur avait enlevé les munitions, c'est dire l'ambiance qui règne, qui est une ambiance de paranoïa, probablement autour de Maduro, qui craint effectivement une réaction ou d'être assassiné à tout moment.
Et la société civile, j'allais dire, jusqu'à quel point la crise sociale finira par avoir un impact sur Maduro, ou est-ce que finalement l'opposition est partie? C'est dispersé, vraiment au sens propre du terme, et c'est très compliqué de trouver quelque chose.
L'opposition porte une part de responsabilité indiscutablement. Ils sont pas forcément à la hauteur, ils sont très divisés, ils n'ont pas vraiment un programme alternatif. Mais c'est très difficile de se débarrasser de Maduro. Quand il a organisé des élections au mois de mai dernier, il les a gagnées parce que il a fait en sorte de contrôler le vote des gens avec des aides alimentaires, avec du clientélisme électoral. Il y a un autoritarisme électoral.
Il y a une tentation totalitaire, on peut dire ça comme ça.
Donc, c'est très difficile. L'issue par les urnes aujourd'hui est exclu. Les gens ne veulent plus descendre dans la rue parce qu'ils ont été effrayés, il y a eu une répression féroce, et parce qu'il faut reconnaître que le quotidien, c'est de se débrouiller pour trouver à manger, etc. Donc, finalement, la seule issue possible, c'est un coup de force, c'est des militaires qui décident qu'il faut reconstruire ce pays, qu'on ne peut pas laisser ce pays si riche et si prometteur pendant longtemps s'effondrer comme il s'effondre actuellement. C'est la seule issue possible.
Qu'est-ce que feraient les voisins dans ces cas-là? On en parlait à l'instant avec la vague de migration, s'il y avait un effondrement, une forme de coup d'État en fait au Venezuela, qu'est-ce qui se passerait autour des voisins? Est-ce qu'il y a une crainte qu'il y ait une forme de déstabilisation, ou on regarde, on attend de voir comment ça se passe?
La déstabilisation, on l'a déjà sous les yeux. Non, je pense que les voisins seraient plutôt contents que certains secteurs de l'armée mettent un terme à ce régime.
Mais du coup, au point de donner un coup de main, parce que c'était ça le sens de ma question aussi, au point de donner un coup de main si jamais l'armée décidait de passer au coup de force en Venezuela?
Je ne crois pas qu'ils auraient besoin d'un coup de main. Enfin, je pense que tous les pays voisins applaudiraient et tâcheraient d'accompagner le pays vers un retour à la normale et une normalisation grâce à des élections libres et compétitives comme le pays n'en a pas connu depuis maintenant assez longtemps.
Mais on pourrait, si ça se passait demain, vous le disiez, l'opposition elle est très dispersée, elle n'existe quasiment plus. Est-ce qu'on pourrait réellement organiser des élections demain si ça se produisait?
Ah oui, bien sûr. Si. Si le pays organise des élections avec des garanties, avec des observateurs internationaux, etc., vous allez voir une très grande quantité de dirigeants politiques se porter candidats. Et il y aura une vraie bataille démocratique. Il y en a eu dans le passé. Le Venezuela n'est pas condamné à rester autoritaire une décennie supplémentaire.
Et vous avez l'impression, Olivier Dabène, que si jamais c'était le cas, alors on n'y est pas du tout, hein, pour l'instant il est là, Nicolas Maduro, que si c'était le cas, le pays peut repartir en fait finalement aussi facilement. Vous le disiez tout à l'heure que l'une des raisons de la chute, c'était le pétrole. La production n'a jamais été aussi basse. Enfin, on est dans un... Mais effectivement, il y a un potentiel là derrière. Est-ce qu'il suffit finalement d'appuyer sur un interrupteur pour que ce potentiel reparte?
Non, la crise est d'une telle gravité que ça va prendre du temps. Ça va être compliqué. Le pays ne pourra pas revenir avant un moment à ces niveaux de production qui étaient de 3 millions et demi de barils par jour. Aujourd'hui, ils sont 1 million. Enfin, c'est véritablement catastrophique. Il y a eu de telles carences d'investissement qu'il va falloir du temps pour redémarrer l'économie. Mais elle redémarrera. Le pays a un potentiel gigantesque. C'est un pays qui est très riche, pas seulement de pétrole, d'ailleurs beaucoup de ressources minières, naturelles, etc., qui fait que le pays repartira, se reconstruira. Mais il va rester avec des niveaux de pauvreté importants pendant longtemps et il va falloir... va falloir beaucoup de temps avant qu'il se reconstruise.
Pour l'instant, et ce sera la dernière question, il lui reste, il a encore des alliés, Nicolas Maduro, ou pas, au stade où il en est aujourd'hui?
En Amérique latine, vous voulez dire? Oui, il lui reste la Bolivie, Evo Morales le soutient, le Nicaragua, Daniel Ortega le soutient, mais c'est vrai qu'il y en a de moins en moins.
Et les Cubains,
hein. Les Cubains aussi, mais il est de plus en plus isolé quand même.
À suivre. Donc depuis le temps, en même temps que compromet la chute de Nicolas Maduro, y compris venant de l'intérieur de son pays, ce sera à suivre. En tout cas, merci infiniment, Olivier Dabenne, de votre passage dans Un jour dans le monde.
France Inter, Fabienne Synthès, Un jour dans le monde.
La suite se passe en Hongrie, dans une clinique où l'on entend des voix, et puisqu'on les entend, eh bien, on les écoute. Vous verrez, étonnant voyage en schizophrénie, ce sera le reportage dans un instant. Sous les radars en Belgique, qui veut interdire un parti politique. Au Royaume-Uni, qui s'excuse pour des expropriations massives, c'était il y a 50 ans. Aux États-Unis aussi, dans une ville éphémère. 18h50, Julia Foyce qui fait son entrée dans Un jour dans le monde. Bonsoir Julia.
Mais bonsoir Fabienne, bonsoir tout le monde.
Et bienvenue, bienvenue, bienvenue. Merci. Un homme sur deux est une femme dans le monde. Julia, il sera question notamment de Norvège ce soir.
Oui, avec un mini remaniement, puis une sombre histoire de poche à la clé.
Voilà, le remaniement cette saison, en ce moment, le monde à l'envers. Bonsoir Jean-Marc Four.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Avec la Cour suprême des États-Unis qui est en train de bouger, et peut-être qu'on devrait regarder plus attentivement de son côté.
Exactement, parce que c'est peut-être là qu'est en train de se jouer l'avenir de la société américaine. Et d'ailleurs, ça intéressera Julia, vous saviez, sur 109 juges qu'il y a eu à la Cour suprême dans toute l'histoire, 4 femmes.
Oh, voilà. C'est énorme.
Pas mal, hein.
Écoutez, enfin, mais de quoi se plaint-on? Allez, le tour de la planète continue, restez avec nous. Nous passons par le Mali, Mamani Keïta, El Toulo sur France Inter.
Bambara Tolo means have fun, so. So let's have some fun. Jealousy, rather be chilling with the family happily. Check for me, living on a mountain peak easily. Wanna be cooking with a cousin in Tennessee. Never be liking cause I'm gonna be simply coming free for the people that much you know we need. Fallacy, probably, possible, logically, a matter of the bottle, we about to too low. Some more Richard Paul, Roger Moore, 007, Harm Connery, on the beat, prisoner wannabe. Gotta be party steed just for the money, see. Most of me happily distracted by fantasy. That'll be after we finish the masterpiece. Dancing me, nastily, finally grabbing me. Radically, radically, got the studio.
Mamani Keïta sur France Inter. Amélie Perrier passe sous les radars dans Un jour dans le monde et c'est maintenant.
France Inter.
Good evening and welcome.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Pierre, vous êtes souple. Et Féline, c'est pour ça que vous arrivez à passer Amélie. Si on parle beaucoup, Amélie, des partis d'extrême droite en ce moment en Europe, en Belgique, c'est une autre formation tout aussi radicale qui anime le débat politique.
Et le parti s'appelle Islam, comme son nom l'indique. Son programme s'inspire de la charia. Il propose par exemple d'ouvrir un droit à la polygamie ou de séparer les hommes et les femmes dans les transports en commun. Écoutez, le président de la formation, Adelaï Bakali Tahiri.
C'est un projet qui est suite à une demande de la gente féminine et qui se sent vraiment harcelée, qui se sent vraiment malmenée et aussi des gens qui ne sont très mal éduqués, qui sont des pervers, il faut le dire. Ce projet qui, je trouve, fonctionne très bien au Japon. Eux, c'est carrément des wagons qui sont réservés aux femmes pendant les heures de pointe.
Voilà, Islam a déjà réussi à faire élire l'un de ses fondateurs avec ce programme, Redouane Arouche à Anderlecht. Redouane Arouche qui a fait parler de lui déjà au printemps sur un plateau de la télé belge. Il ne regarde pas la journaliste qui l'interroge.
À me regarder, vous ne pouvez pas faire non plus?
Bah écoutez, bon, je regarde le présentateur.
Bah je vous pose la question.
Je vous entends, 5 sur 5. Allez-y.
C'est vrai que vous ne regardez pas Emmanuel. Je vois que vous ne regardez pas.
Il n'y a rien dans la loi qui dit que vous regardez.
Je vous vois assez souvent à la TV, tous les dimanches.
Voilà. Non mais c'est à ce point-là, parce qu'effectivement, c'est vrai que là, j'avoue que je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Vous ne regardez pas Madame Pratt quand elle vous parle.
Et dernier dérapage en date, un candidat du parti Islam a posté des menaces de mort sur la page Facebook du mouvement réformateur concurrent lors des élections communales à venir, c'est le 14 octobre. Je vais te lapider, je t'égorge comme un mouton halal, voilà ce que on a posté du côté du parti Islam. Le MR a déposé plainte avec trois autres formations politiques qui vont aussi faire des propositions de loi pour interdire des partis menaçant les libertés publiques.
Ben, un petit peu oui, on passe au regret du Royaume-Uni, des regrets à propos de l'une des pages sombres de l'histoire du Royaume-Uni.
Oui, une histoire peu connue, examinée aujourd'hui à la Cour internationale de justice. Londres regrette la manière honteuse, ce sont les mots officiels des Britanniques, la manière honteuse dont les habitants des îles Chagos ont été traités en 1965. Ce petit archipel a été séparé de l'île Maurice par les colons britanniques et Londres y a installé ensuite une base militaire commune avec les États-Unis. 2000 habitants des îles Chagos ont alors été expulsés vers l'île Maurice ou les Seychelles pour construire cette base. Hier, les débats se sont ouverts devant la Cour internationale de justice et l'on retiendra le témoignage de cette femme.
Je m'appelle Lisby Élisée. Bonnet, les 24 juillet.
Voilà, je m'appelle Lisby Élisée, dit-elle dans cette vidéo diffusée à la Cour. Je suis née le 24 juillet 53 à Perros-Bano. Et là, elle décline l'identité de ses parents, de ses grands-parents. Et elle dit qu'elle va faire partie de la délégation mauricienne pour raconter toutes les souffrances qu'elle a subies depuis qu'elle a été déracinée de son île paradis. Et plus loin, l'émotion et la colère la submergent.
Et mes larmes coulent tous les jours, mon magine, qui me bizarre et tout.
Mes larmes coulent chaque jour, dit-elle, quand je pense à revenir sur mon île. Je veux y retourner, y mourir, là où mes grands-parents ont été enterrés, là où je suis née, mon île natale.
Nous prenons naissance et dans nos îles natales.
Et là, elle éclate en sanglots sur la vidéo et dans la salle de la Cour internationale de justice. L'émotion donc de cette Tchagossienne face aux armes juridiques du gouvernement britannique. Par la voix de son conseiller juridique, hier, il a simplement contesté le recours à la CIJ. Il s'agit d'un différend bilatéral entre Londres et Port-Louis, pas du ressort de la Cour selon lui.
Étonnante histoire. On termine, Amélie, avec le festival Burning Man qui s'est achevé hier soir.
Un festival en plein désert du Nevada aux États-Unis. Les participants créent une cité temporaire, Black Rock City, dédiée aux arts et à la vie en communauté. Alors voilà ce qu'on y écoute, c'est une ville éphémère montée et démontée chaque année en quelques jours. C'est un immense succès, rendez-vous incontournable de tous les hipsters de la planète. Et le Washington Post vient de publier les images qui prouvent et expliquent comment le festival apparaît puis disparaît sans laisser de traces dans le désert. Le dessin des routes d'accès début août, les premières rues de la ville à la mi-août, le colosse de bois en plein festival qui est brûlé à la fin. Et la dernière image satellite, quelques jours après le festival, rien ne subsiste et les routes tracées disparaissent dans le désert, comme si tout ça n'avait été qu'une hallucination, Fabienne.
Vous savez, parfois c'est tout ce pays qui est une hallucination. Amélie Perrier, sous les radars, merci beaucoup.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem,
Pékin. Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
Et voici une histoire absolument hallucinante que je voudrais vous faire partager maintenant. Ça se passe en Hongrie, ça se passe à Budapest. Et nous allons dans le club des entendeurs de voix. On parle de gens qui entendent réellement des voix. Ça se passe dans un centre de soins totalement unique. C'est là que nous sommes. Bonsoir Florence Labruyère.
Bonsoir.
Florence, c'est une association qui s'appelle L'Éveil, qui a fondé un hôpital de jour. On y soigne les schizophrènes et les psychotiques avec une méthode originale. C'est la méthode des entendeurs de voix. Ça a l'air poétique comme ça. Vous allez nous raconter comment ça fonctionne.
Dans cette vieille maison du 8e arrondissement, un quartier populaire de Budapest, la cour intérieure est plantée de grands arbres et décorée de tableaux peints par les patients. Nous sommes à l'association L'Éveil, qui accueille les personnes souffrant de troubles mentaux. Elles ne sont pas hospitalisées, mais viennent ici pendant la journée. Robert Christophe, directeur de l'institution.
Je dirais que c'est un centre unique à Budapest parce que nous, on fait ici la psychiatrie communautaire intégrée. C'est-à-dire qu'ici, non seulement des assistants sociaux qui travaillent avec les patients, mais aussi des psychologues et des psychiatres. Alors, il ne faut pas attendre des semaines ou bien des mois pour un rendez-vous avec un psychiatre ou un psychologue, mais ils peuvent voir un psychologue ou un psychiatre dans, je ne sais pas, 3 heures, 4 heures.
Ici, on soigne les personnes bipolaires ou schizophrènes à l'aide d'une méthode découverte par des médecins néerlandais. Les patients ne sont pas considérés comme des schizophrènes, mais comme des entendeurs de voix.
Parce que le mot schizophrène, c'est stigmatisant. J'entends des voix, c'est normal. Je dirais tout le monde, on entend des voix, non, de temps en temps. Alors, on peut en parler. C'est intéressant, c'est humain, parce que c'est normal.
Alors là, on va entendre un témoignage de...
Des entendeurs de voix, ouais.
Ce jour-là, le club des entendeurs de voix réunit une quinzaine de participants qui échangent leurs expériences. Pas de médecin dans la salle, les malades parlent en toute liberté des voix qu'ils entendent. Cette fois-ci, le groupe accueille une nouvelle venue, Eva. J'entends des voix et j'ai des hallucinations, raconte la jeune femme de 25 ans. Depuis combien de temps, demandent les autres. Ces personnes que tu vois, elles te disent leur nom ? István Galai participe au club des entendeurs de voix depuis sa création il y a 6 ans.
Avant, j'entendais beaucoup de voix qui me critiquaient sans arrêt. Pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça et pas ça? J'étais tellement sous pression que je n'arrivais pas à prendre de décision.
Aujourd'hui, István est guéri. Il n'entend pratiquement plus de voix. Il est devenu l'animateur du groupe et guide les autres patients.
These voices can be connected to the life events. When you had traumas or you stuck in your life or you have problem with
On essaie d'établir un lien entre ces voix et les traumatismes qu'on a eus dans notre vie. Et l'autre pilier de la méthode, c'est qu'on dialogue avec les voix.
How to ask yes no questions, how to fight for our self confident against the voice.
On apprend à leur tenir tête sans les brusquer. On essaie de les apprivoiser. Par exemple, on leur demande gentiment de revenir plus tard.
We can ask the voices to come back later.
Un autre patient, Peter Nodge, raconte que plusieurs voix le harcelaient en même temps.
Imaginez que vous pensez à quelque chose. Moi, je pense souvent à plein de trucs. Et les voix commentent toutes vos pensées. Par exemple, ma mère a les yeux bleus, c'est une image positive. Eh bien, les voix répètent, on n'aime pas ça, on n'aime pas les yeux bleus. Tu vas finir par détester, on va te détester.
She will hate you.
Cela fait un an et demi que Peter participe au club et depuis quelques semaines, il n'entend presque plus de voix.
Je pense que chaque entendeur doit trouver son propre chemin vers la guérison. Et je l'ai trouvé. Et vous savez quoi? C'est ce que j'ai raconté à mon psychiatre. Les voix m'ont même dit, c'est ça, Peter. T'es sur le bon chemin. C'est ça, Peter. C'est un peu surréaliste, mais c'était aussi fantastique.
Les entendeurs de voix continuent quand même à voir un médecin et à prendre des médicaments. Mais selon la psychiatre Judith Harangozo, si l'état des patients s'améliore, c'est parce qu'ils participent à ce club.
We are emphasizing the self-help way of recovery.
Le fait que les patients se prennent en charge et s'entraident, c'est très important. C'est un grand pas vers la guérison. Quand ils sont entre eux, ils se sentent plus libres. J'ai des malades que je vois depuis 10 ans et qui ne m'avaient jamais raconté certaines choses. Au sein du groupe, ils parlent et leur âme s'ouvre aux autres.
Vraiment, ils sont contents de venir ici, d'être ensemble, parce que ça donne aussi un sens très fort de communauté. Communauté avec des gens qui ont à peu près les mêmes problèmes. Je ne suis pas seul. Il y a des gens autour de moi qui se battent pour les mêmes choses que moi. Alors ça donne vraiment une force, une énergie incroyable.
Le centre organise régulièrement des événements, expositions de peinture, pique-niques, conférences. Les patients ne sont jamais mis à l'écart. Ils participent à la vie de cette association, pas comme les autres.
Plus qu'étonnant, ça nous a tous fait un peu flipper pour tout dire autour de la table, là, dans un jour dans le monde, en fait, surtout Jean-Marc. Allez, Florence Labruyère, merci beaucoup et merci de passer la soirée avec nous. Sharon Jones & Co, Matter of Time sur Inter. Sharon Jones sur France Inter. Sharon Jones et plein d'autres gens aussi, mais on n'a pas le temps de tous les nommer. Allez.
France Inter.
So I want all the girls that a new day is on the horizon.
Fabienne Saintès.
You're all scared of girls.
Un jour dans le monde.
Me too.
On est ravis d'accueillir Julia Foyce dans Un jour dans le monde, puisqu'un homme sur deux est une femme dans le monde. Il y a de quoi dire et raconter. Julia, toutes les semaines, vous viendrez avec une bonne et une mauvaise nouvelle. pour les femmes du monde. Et on commence par quoi alors aujourd'hui?
Bon, on va commencer par la bonne, on va pas se cacher dès la rentrée.
Non, pas tout de suite.
À la faveur du remaniement ministériel, Gérard Collomb démissionne pour pouvoir se consacrer à sa vie de famille, permettant ainsi à son épouse de saisir une belle opportunité professionnelle. Ben non, évidemment, non, jamais de la vie. En revanche, en Norvège, c'est bel et bien ce qu'il s'est passé. Le ministre des Transports, Ketil Solvik-Olsen, a annoncé son départ de la coalition gouvernementale, et ce, pour que sa femme puisse exercer comme médecin dans un hôpital pour enfants américain. Le couple avait conclu un accord il y a quelques années où il s'engageait à favoriser alternativement la carrière de l'un ou de l'autre. Accord respecté. Donc, j'ai aimé être ministre des Transports, a déclaré Solvik-Olsen. J'aurais bien continué toute ma vie, mais je suis arrivée à un carrefour de la vie où c'est au tour de ma femme de poursuivre son rêve. C'est mignon. Hein.
C'est sympa, c'est normal.
C'est même canon.
C'est pas mignon, Norvège, c'est normal.
Pays qui, rappelons-le, figure au deuxième rang mondial de la parité homme-femme d'après le dernier classement du Global Gender Gap Report, avec des femmes à la tête du gouvernement, du principal syndicat, du patronat et des trois grosses formations politiques. On commence à être bien. Par contre, il fait froid, mais mes considérations météo n'engagent que moi.
Allez, puisqu'on file la métaphore météorologique, dites-nous donc, Julia, où est-ce que le ciel s'assombrit pour les femmes?
Au niveau de la poche, glissez une main dans la poche de votre pantalon, Fabienne, pour voir.
Ça y est, si, je le fais. La poche arrière, vous dites
Non,
ou pas
devant, la poche devant. Avant.
Attendez, ouais. Vous me demandez de ces trucs. Eh ben, j'ai du mal.
Vous êtes comment? Vous n'êtes pas bien, hein?
Bah,
vous n'êtes
pas
confort, hein?
Pas
vous
n'êtes
pas
large.
Pas
confort.
Ben, c'est normal. Alors, quant à imaginer y ajouter quelque chose comme, je sais pas, un trousseau de clés, un portefeuille, un smartphone, c'est quasi impossible la plupart du temps. On s'en doutait, il y avait comme un deux poids deux mesures dans la poche de nos jeans. The Pudding vient de le prouver. Le média américain publie une enquête menée auprès de 20 marques de jeans. Et résultat, seuls 10% des poches pour femmes peuvent accueillir une main féminine moyenne contre 100% des poches pour hommes. On s'en moque? Eh ben, pas tant que ça. Comme le disait tout récemment dans les colonnes du Guardian, l'auteur féministe Chelsea J. Summers, quand il s'agit des poches des femmes, oui. La taille, ça compte. Et la dame d'ajouter, tant que la poche de mes jeans ne pourra pas contenir mon téléphone et mes clés, elle sera toujours plus pour moi un sujet politique qu'une question esthétique. Pour étayer sa démonstration, elle déroule dans sa tribune toute l'histoire de nos poches qui commence à peu près bien puisque jusqu'au XVIIe siècle, les femmes comme les hommes portent à l'extérieur ou à l'intérieur du vêtement de grosses poches détachables. Mais la mode finit par évoluer, le costume de l'homme s'affine, s'allège et on lui coud une multitude de poches à l'intérieur du veston, du frac, de la redingote. Les femmes, non. Pire, elles ne peuvent même plus trimballer leurs petites affaires à l'abri des regards sous leurs vêtements puisque la poche détachable disparaît au profit du réticule, l'ancêtre du sac à main. Et donc, si elles veulent pouvoir se déplacer avec de l'argent et ou des papiers ou que sais-je encore d'à peu près nécessaire, elles ont deux solutions. Soit elles chargent leur sac, soit elles demandent à leur mari, frère ou père de les porter pour elles. En termes d'indépendance, dans cette mobilité, comment dire, on a vu mieux. Les suffragettes ont fini par en faire un combat et au tournant du 19e siècle, le New York Times relaie leurs revendications. Maintenant que nous sommes civilisés, nous avons besoin de poches, rappelle la tribune. Le sexe féminin ne peut rivaliser s'il n'a pas de poches. Là, on est en 1908. Depuis, oui, on en a des poches, mais toutes petites, 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 à la fois. Ce serait tellement dommage pour l'industrie de la mode si les femmes pouvaient toutes et tout le temps se passer de sac à main.
Allez, dans un autre genre, mais par chez nous, Julia, ça se passe comment pendant ce temps-là?
On débat sur le prélèvement à la source, hein, vous savez, j'en veux pas, et là. Eh bien, Philippe Besson, lui, il tranche. L'éditorialiste écrit dans le dernier numéro du Point « Payer ses impôts était un acte, c'est devenu un viol ». Ah ben non, Philou, non, ça c'est pas pareil, ça c'est ce qu'on appelle un abus de langage. Un peu comme quand on parle de prise d'otage pour les grèves dans le métro, vous voyez. Demandez à votre femme, votre fille, votre sœur, votre mère, votre fleuriste, votre ce que vous voulez, hein, pourquoi c'est pas tout à fait la même chose. Une femme sur deux en France et dans le monde ayant à subir des violences sexuelles au cours de sa vie, vous devriez trouver facilement quelqu'un pour vous l'expliquer. Allez, bisous.
Allez, pareillement Julia, un homme sur deux est une femme, ça se passe tous les mardis dans Un jour dans le monde et mille fois merci.
Le 18-20, Fabienne Synthès. Sur France Inter.
Le monde à l'envers. Et Jean-Marc Four, Jean-Marc a deux mois des élections à mi-mandat. On en a parlé encore cette semaine dans Un jour dans le monde. Tous les regards sont évidemment braqués sur ce rendez-vous électoral déterminant pour la suite du mandat de Donald Trump. Sauf que vous, dans votre monde à l'envers, vous dites, on ne regarde pas au bon endroit. Il y a plus important que ces élections. Et ça se passe depuis aujourd'hui au Sénat américain, la procédure de nomination d'un juge clé à la Cour suprême.
Alors les auditions ont démarré à 15h30 tout à l'heure. Là, on est en suspension de séance depuis quelques minutes, et je peux vous dire, pour avoir passé tout l'après-midi à les regarder, que ça a sérieusement chauffé entre élus républicains et démocrates, avec même l'irruption de manifestants pendant l'audition, etc. Parce que ce qui se joue là est en fait essentiel pour l'avenir des États-Unis, en particulier de la société américaine. C'est vrai que vous le disiez à première vue, on se dit que les élections de début novembre, c'est plus spectaculaire parce que l'opposition démocrate peut espérer reprendre la Chambre des représentants. Mais d'abord, c'est loin d'être fait, vu le socle électoral quand même assez solide de Donald Trump. Et puis ensuite, en fait, ça ne changera sans doute pas grand-chose parce que la majorité républicaine a de bonnes chances de conserver la majorité dans l'autre chambre, c'est-à-dire le Sénat. On passe. En revanche, ce qui se joue depuis cet après-midi, l'équilibre au sein de la Cour suprême américaine, ça pourrait avoir des conséquences pour longtemps. Alors de quoi s'agit-il ? Le Sénat doit, d'ici à la fin de la semaine, confirmer la nomination d'un nouveau juge. Il s'appelle Brett Kavanaugh. Pourquoi est-ce que c'est essentiel ? En raison des pouvoirs de la SCOTUS. C'est le petit nom de la Cour suprême aux États-Unis. SCOTUS pour Supreme Court of the United States. Un petit rappel, la Cour suprême, c'est depuis 1789, l'instance judiciaire supérieure aux États-Unis. Vous savez ça mieux que personne, Fabienne. C'est à la fois le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, le Conseil d'État, tout en un, instance d'appel et cour décisionnaire. C'est très important sur les grands sujets de société. Et surtout, les juges qui y sont nommés, et c'est là, ils sont nommés sur la proposition du président, et c'est là le point clé, ils sont nommés à vie. C'est ça le point déterminant. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que dans la configuration d'aujourd'hui, la majorité au sein de la Cour pourrait basculer pour des années, voire des décennies. Et là, pour comprendre, il faut regarder qui est le juge sortant, évidemment, et qui est le juge entrant.
Donc allons-y, qui entre et qui sort ?
Alors, il y a 9 juges au sein de la Cour. Il y en a 4 qui sont, disons, conservateurs. Il y en a 4 autres qui sont, disons, progressistes, libéraux, si vous voulez, au sens américain du terme. Et puis, il y a celui qui vient de démissionner, parce qu'il veut prendre sa retraite à 81 ans, Anthony Kennedy. Et c'était un juge pivot. Il avait été nommé par Ronald Reagan, mais en fait, il votait tantôt pour les conservateurs, par exemple sur le financement politique ou sur la détention des armes à feu, tantôt avec les progressistes, par exemple sur les droits des homosexuels ou sur la peine de mort. C'était un peu Salomon, si vous voulez, le point d'équilibre au sein de la Cour. Maintenant, celui qui arrive, en tout cas celui qui est proposé par Donald Trump, Brett Kavanaugh donc. Il a 53 ans, le visage un peu poupin, vous savez, avec des joues bien roses. Il est venu tout à l'heure à l'audition en famille, notamment avec ses 2 filles qui étaient dispensées d'école pour l'occasion. Chemise blanche, hein, bien qu'on soit après Labor Day.
Oui, vous avez bien appris le...
Ouais. On en parlait hier, cravate bleue, costume sombre. C'est un juriste confirmé, un diplômé de Yale, mais c'est surtout un conservateur pur jus. Catholique pratiquant, ancien conseiller du procureur Starr lors de la procédure d'impeachment contre Clinton, vous vous souvenez peut-être, et ancien conseiller de George Bush. Avec lui, fini l'équilibre, la Cour basculerait pour longtemps dans le camp conservateur.
Mais alors pourquoi vous dites « pour longtemps » parce qu'il y aura d'autres changements, non ? Au prochain départ à la retraite, en fait.
Oui, sauf qu'en toute logique, les 2 prochains juges à partir en retraite seront 2 libéraux, Ruth Ginsburg et Stephen Breyer, 85 et 80 ans. À l'inverse, les juges conservateurs, eux, sont tous relativement jeunes, entre 50 et 70 ans, donc ils devraient rester en place pour très longtemps. Et rien ne pourra modifier cet équilibre puisqu'ils sont nommés à vie. Même si Trump changeait, même si un démocrate succède à Trump, ça ne changera rien à la composition de cette Cour suprême et à cette domination des conservateurs. Et c'est là où on en revient au pouvoir très important de la Cour suprême. Imaginons cette majorité conservatrice stabilisée pour 10 ans au moins, voire davantage. On peut alors assister à des réformes sociales majeures. La remise en cause de l'assurance maladie, le renforcement de la liberté de port d'armes et de la peine de mort, la limitation du pouvoir des syndicats, voire la remise en cause de l'arrêt sans doute le plus célèbre de la justice américaine, Roe contre Wade, c'est-à-dire le droit à l'avortement, Donald Trump le souhaite. Voire aussi l'instauration d'une immunité totale pour le président. Suivez mon regard, ça pourrait bien aider Donald Trump dans ses démêlés contre le procureur Mueller. Les auditions au Sénat vont se poursuivre jusqu'à vendredi, au moins. Et si, comme c'est le plus probable, Brett Kavanaugh obtient le feu vert du Sénat, la face de l'Amérique en sera durablement changée. On aura donc un pouvoir judiciaire suprême pour longtemps le reflet de cette partie de l'Amérique très conservatrice qui soutient Donald Trump.
Allez, le monde à l'envers. Et Jean-Marc Four dans Un jour dans le monde. Merci Jean-Marc, à demain. Le 18-20, la suite, c'est le téléphone sonne. On parle remaniement ce soir et gouvernance aussi d'Emmanuel Macron. À tout de suite. Merci de nous écouter. Belle soirée.